Dans la proposition que m'a faite Jean-Pierre Changeux de participer à ce colloque, ce dont je le remercie encore, il y avait d'abord l'occasion offerte de saluer l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, dont les liens possibles avec le sujet de nos débats, la vie des formes, sont évidents. Il y avait aussi une demande explicite d'élargir l'approche à des questions certes présentes, mais non centrales chez l'auteur de la pensée sauvage. On verra que ce n'est pas sans raison que je mobilise cette référence-là. La question de l'espace construit en tant que forme de la pensée m'a paru offrir un angle favorable de discussion. Quel lien peut-on envisager entre le village Bororo, précisément décrit dans un chapitre d'anthropologie structurale et dans Triste Tropique, et ce que je nomme la ville réseau? Cette dernière expression n'apparaît pas chez Lévi-Strauss. On verra comment l'entendre. Ce dont il est question à propos du village Bororo, c'est un système d'homologie qui apparaît entre, premièrement, la disposition des habitations selon des valeurs affectées à certains espaces, deuxièmement, le fonctionnement des relations exogamiques entre divers groupes, et troisièmement, une représentation globale du monde, disons une cosmologie. De telles analyses offrent un excellent modèle pour saisir ce type d'articulation dans des cultures comparables. Peut-on envisager de les étendre à l'espace urbain ? En vérité, Lévi-Strauss ne l'a pas tenté et sans doute devait-il penser qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Pourtant, la question se pose d'autant plus que l'on trouve chez lui de nombreux textes concernant la ville, ou plutôt certaines villes. Descriptions souvent inspirées, mais où jamais ne pointe l'idée que la disposition des rues ou des immeubles de New York, Sao Paulo, Rio, Calcutta puissent traduire des relations de parenté ou figurer la cosmologie de leurs habitants. Tout se passe comme si à propos de la ville contemporaine, même quand elle intègre des éléments du passé, il n'y avait rien à dire sinon qu'elle est le lieu par excellence de concentration et de gestion de population. En cela, la ville n'apparaît pas, à l'instar du village Bororo ou de tant d'autres villages de culture similaire, comme l'expression d'une forme de la pensée. Et du reste, qu'entendre ici par cette expression ? On pressent qu'il faut l'entendre au sens de pensée sauvage, c'est-à-dire une pensée qui s'énonce non sous forme de concept ou de discours, mais s'expose à même l'organisation et la transformation d'éléments sensibles. Mais pourquoi ce qui est possible dans le cas d'un village amazonien ne le serait plus dans celui d'une ville moderne ? À moins qu'il ne faille aborder la question autrement. C'est ce que je voudrais montrer, ou plutôt suggérer, dans le laps de temps très court d'un tel exposé. Revenons d'abord sur la démonstration de Lévi-Strauss concernant le village Bororo. Elle est proposée dans le chapitre 8 d'Anthropologie structurale intitulé « Les organisations dualistes existent-elles ?» Dans ce texte souvent discuté de 1956, Lévi-Strauss tente de répondre à la question qu'il pose en confrontant les données d'aire culturelle très éloignées d'Amérique du Nord, les Winnebago, de Mélanésie, d'Indonésie et du Brésil, donc les Bororo. On a affaire à la situation suivante. Dans ces différents cas, les villages, d'après les informateurs locaux, sont divisés en deux moitiés exogamiques selon un axe géographique. D'autres indigènes, cependant, prétendent qu'ils sont organisés selon deux cercles concentriques. Lévi-Strauss s'attache à montrer qu'il ne s'agit pas d'une contradiction chez les informateurs, mais d'une superposition de deux schémas répondant à deux types différents de problèmes et de perspectives. Ainsi, le partage diamétral peut définir des moitiés exogamiques, tandis que l'opposition centre-périphérie peut être celle du masculin et du féminin, des célibataires et des familles, ou du profane et du sacré, ou d'autres encore, d'autres oppositions possibles. C'est une partition de ce type que Lévi-Strauss observe lui-même chez un groupe Bororo du Brésil. Son enquête fait apparaître clairement trois aspects essentiels de cette société à partir de la morphologie de son habitat. Il y a tout d'abord un aspect évident, à savoir une implantation des huttes selon la distinction du centre et de la périphérie. Là, vous avez le schéma simplifié. Au centre, on trouve, je ne sais pas si vous voyez bien, donc si on le voit suffisamment, on trouve une grande maison commune réservée aux hommes et où dorment les célibataires. C'est un lieu de discussion. Devant cette maison, cette maison des hommes existe un espace marqué par des piquets réservés aux danses et à divers rituels. Cet espace central est relié aux maisons individuelles par des sentiers qui partent en étoile, donc qui ne sont pas figurés ici. Ces maisons sont l'espace féminin, et cela d'autant plus que la règle de résidence est matrilocale. Près des maisons se trouvent les jardins cultivés par les femmes. Au-delà, c'est la forêt. Cette distribution concentrique traduit donc à la fois la différence masculin-féminin, déjà évoquée, l'opposition sacrée-profane, et sur sa limite, la distinction entre espace cultivé et espace sauvage. Une autre distribution importante apparaît aussi clairement, quoique moins visuellement évidente, et les fonctions de la division exogamique. Au nord, les cases de la moitié du groupe Serra, et en face, au sud, séparées par une ligne invisible, celle des Tougaris. Ici, ça a été représenté sur une division de droite-gauche. En fait, c'est nord-sud. On a donc une claire répartition des moitiés exogamiques littéralement inscrites dans l'espace. Cependant, une division supplémentaire s'ajoute. Chaque moitié exogamique se divise elle-même en trois groupes, supérieur, moyen et inférieur, les mariages devant se faire avec les conjoints de même niveau. Ce qui amène à poser cette question plus générale, comment les moitiés tenues à des obligations réciproques, demande Lévi-Strauss, exerçant des droits symétriques, peuvent-elles être en même temps hiérarchisées? Ah, il est là. Il est là. Oui. Donc, j'en ai pas abusé. Toute la question sera de comprendre comment les règles d'alliance entre supérieur, moyen et inférieur convertissaient chez les Bororo, et là je cite, un système apparemment d'exogamie dualiste en un système réel d'endogamie triadique. D'où ces questions, quel rapport faut-il concevoir entre dualisme diamétral et dualisme concentrique? Cette question, estime Lévi-Strauss, est extrêmement complexe, mais permet déjà de réévaluer la distinction entre échange restreint et échange généralisé proposé dans les structures élémentaires de la parenté. La première forme, dit-il, est sans doute et avant tout un cas de la deuxième. Donc, c'est l'échange généralisé qui est la règle générale d'après cette analyse. Ce qui permettrait de formuler cette hypothèse, je cite, « Le dualisme concentrique est un médiateur entre le dualisme diamétral et le triadisme. » Fin de citation. Ce qui est possible, comme le montre l'auteur, parce que le dualisme diamétral est de nature statique, tandis que le dualisme concentrique est dynamique. Il est déjà, en fait, de type ternaire. Il y a donc une congruence remarquable entre la disposition spatiale des habitations, le fonctionnement des échanges exogamiques, l'assignation des positions sociales et la représentation du monde en général, inséparable de ce dispositif. En cela, on peut dire que la forme de l'espace construit constitue non seulement une expression d'une pensée, elle est cette pensée. Ce que cette remarque de Triste Tropique nous fera mieux comprendre, je cite, « La distribution circulaire autour de la maison des hommes est d'une telle importance en ce qui concerne la vie sociale et la pratique du culte que les missionnaires salésiens de la région du Rio das Garças ont vite appris que le plus sûr moyen de convertir les Bororo consiste à leur faire abandonner leur village pour un autre où les maisons sont disposées en rangées parallèles, désorientées par rapport aux points cardinaux, privées du plan qui fournit un argument à leur savoir, moins important, les indigènes perdent rapidement le sens des traditions, comme si leur système social et religieux, qui sont indissociables, était trop compliqué pour se passer du schéma rendu patent par le plan du village et dont leurs gestes quotidiens rafraîchissent perpétuellement les contours. » Voilà pour le village Bororo. Lévi-Strauss ne nous dit rien de comparable à propos des villes, et pourtant, dans Triste Tropique, il nous éblouit avec d'étonnantes descriptions de paysages urbains, ainsi New York, dont il dit que l'on ne peut en saisir la beauté si on ne comprend pas que cette ville appartient à un autre ordre de perception. Je cite, « La beauté de New York ne tient pas à sa nature de ville, mais à la transposition pour notre œil de la ville au niveau d'un paysage artificiel où les principes de l'urbanisme ne jouent plus. » Ça continue dans ce style. À quoi plus tard, en 1977, fait écho un texte de, s'exprime en ces termes. New York n'était pas la métropole ultramoderne que j'attendais, mais un immense désordre horizontal et vertical, attribuable à quelques soulèvements spontanés de l'écorce urbaine plutôt qu'au projet réfléchi des bâtisseurs. Fin de citation. On pourrait citer ici bien d'autres textes remarquables concernant des villes comme Sao Paulo, Rio, Karachi, Chicago, quelques autres. De ces diverses descriptions se dégage cette certitude. La ville dont parle Lévi-Strauss, même quand elle séduit, ne semble pas le lieu d'un symbolisme particulier, ni même d'une rationalité exemplaire. En revanche, le village Bororo est un outil de pensée, voire une pensée en acte, un dispositif intelligent et signifiant, un opérateur symbolique complet. Pourquoi la ville ne l'est-elle pas ? Il faudrait élargir la question pourquoi, désormais, les formes de l'habitat collectif, et la ville au premier chef, ont perdu ces qualités qui font la richesse des espaces construits dans les civilisations prémodernes. Lévi-Strauss ne le dit pas en tout cas aussi directement, mais ses approches semblent le laisser entendre. On peut regretter qu'il ne tente pas de formuler plus clairement le problème. Ce serait pourtant être déçu trop vite. Il y a bien dans Triste Tropique l'esquisse d'une problématique. Elle se formule, il est intéressant de le remarquer, à propos de villes nouvelles du plateau central brésilien. Il s'agit de villes nées de la colonisation du Brésil intérieur entre le milieu du XIXe siècle et l'époque des enquêtes de Lévi-Strauss, c'est-à-dire la fin des années 30. Lévi-Strauss repère bien une rationalité dans leur émergence, ville née des échanges au croisement des pistes, au bord des fleuves, ou liée à une activité agricole en plein essor. Mais les remarques les plus intéressantes sont ailleurs. On les trouve dans les pages consacrées à Chicago et Sao Paulo. Deux villes qui, admet-il, au risque de surprendre, l'ont séduit d'emblée. Pourquoi ? Parce que, dit-il, ce sont des villes sauvages, c'est son expression, se jetant constamment dans l'aventure de leur expansion, de leur renouvellement. Ce sont des projections d'énergie. Ce qui est alors intéressant, c'est qu'il leur oppose le modèle de Washington, conçu d'une pièce, si on peut dire, à la fin du XVIIIe siècle, par l'architecte français Pierre-Charles L'Enfant, selon un plan rationnel, ville domestiquée, dit Lévi-Strauss, captive, je cite, et périssant d'ennui dans la cage étoilée d'avenue derrière quoi l'a enfermé l'enfant. Fin de citation. Face à ce modèle, il voit dans Sao Paulo une ville, c'est l'expression, indomptée. En somme, la ville-monument classique est délégitimée au profit d'une forme urbaine inventive, aventureuse, en apparence chaotique. Se disséminant sur l'espace, indifférente à la référence à un point central. C'est la naissance d'un archipel. C'est ce qu'on peut appeler la ville-réseau. On verra bientôt pourquoi. Au fond, toute notre question ici serait de comprendre ce qui a permis le passage de Washington, la monumentale et rigide, à Sao Paulo, l'aventureuse et flexible. Pour cela, quittons pour un moment Lévi-Strauss et demandons-nous où en est la ville contemporaine. Peut-on dire à son propos, et selon quelle perspective, que comme forme de l'espace construit, elle est ou n'est pas une forme de la pensée. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à l'expansion planétaire de lieux urbains formant des nébuleuses immenses. Que les photos nocturnes prises par satellite rendent évidentes. Il s'agit de photos de la NASA. J'espère que les droits ne sont pas ici. Évidemment, ce sont des photos reconstituées parce qu'il y a quand même des nuages. Et voici pour l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc, la croissance des villes contemporaines est-elle un phénomène simplement anarchique ou bien relève-t-elle d'un processus plus complexe où peut se repérer une rationalité ou une intelligibilité d'un nouveau type ? Une autre pensée est-elle à l'œuvre ? Pour répondre, il est nécessaire de mettre en perspective ce à quoi nous assistons. Cette croissance se comprend mieux si, au lieu d'être référée au modèle de la ville ancienne, que j'appelle la ville-monument, la ville contemporaine est comprise comme un développement en grappe, bref, comme un dispositif ouvert, non centré, disons, comme ville-réseau. Mais pour comprendre le passage entre ces deux modèles, il est essentiel de prendre en compte une autre dimension de la ville, comme lieu de gestion des populations, de production de biens, de transformation technique, ce qu'on peut appeler la ville-machine. Tel a été le chaînon manquant dans la plupart des généalogies du phénomène urbain. Ces trois dimensions, monument, machine, réseau, peuvent être saisies comme toujours présentes simultanément, depuis qu'il y a des villes, mais aussi comme ayant subi une transformation historique particulière, bref, comme lisible à la fois en perspective synchronique et en perspective diachronique, comme une structure et comme un devenir. Suivons celui-ci pour mieux identifier celle-là. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de présenter cette tripartition, ce schéma tridimensionnel, si je puis dire, dans l'ouvrage mentionné par Philippe Descola tout à l'heure. Alors, je reprends ce modèle, qu'on me le pardonne, et j'en teste, si je peux, la pertinence pour la reprise de ce texte de Lévi-Strauss. Et tout d'abord, la dimension du monument. Sans revenir ici sur les conditions et les raisons d'émergence des premières cités, voici environ 10 000 ans dans les collines du Croissant Fertile, et plus tard ailleurs, dans la vallée de l'Indus ou du fleuve Jaune, j'en viens directement au point qui nous intéresse. Les chercheurs se sont posé la question de savoir ce qui distinguait un gros bourg de ce que nous pouvons appeler une ville. Le critère retenu, par exemple, par Jacques Covin, est intéressant. Il tient au constat de l'existence de constructions à caractère collectif ou public, comme des remparts, des lieux de culte, ou plus décisivement, la présence d'une forteresse ou d'une demeure seigneurale. En somme, la ville proprement dite se distingue par des constructions de type monumental qui signalent l'existence d'un pouvoir, lequel peut être guerrier ou lié à la possession de terres environnantes et parfois au contrôle de groupes asservis. D'emblée, ce premier espace urbain nous parle d'une société fortement hiérarchisée, mais avant tout, la monumentalité est l'indice d'une présence humaine, d'un type nouveau, par sa puissance, sa taille, sa différenciation par rapport au monde environnant. Cette nouveauté se manifeste d'emblée dans le domaine religieux et l'expression symbolique. Et là, je vais aller un peu vite, au risque de paraître sommaire, mais le temps l'oblige. Donc, avec l'émergence aspect religieux, avec l'émergence des villes, on assiste aussi à l'apparition de divinités nouvelles qui refoulent les anciennes liées à la terre et au lignage. La ville se veut miroir du ciel. On peut interpréter ainsi, en Grèce, la victoire des Olympiens sur les anciennes divinités chthoniennes. Cette mutation religieuse s'élargit à l'ensemble du symbolisme que la cité manifeste. Ce symbolisme, dans certaines traditions, éclate d'abord dans les rites de fondation, comme c'est le cas à Rome ou en Chine. Les rituels romains nous sont connus avec le choix de l'emplacement par les augures, le traçage du sillon qui sépare un dedans saint d'un dehors profane, et c'est d'abord la première fonction du rempart, le tracé des deux axes, le decumanum pour l'est-ouest, le cardo, l'axe du monde et leur jonction dans l'ombilicus. On est vraiment dans un univers symbolique. La ville monumentale est un résumé du monde, compendium mundi, l'urbs et orbis. Quant à la ville médiévale, européenne, même si elle change le schéma spatial romain et organise les constructions autour de la cathédrale, rétablissant le modèle circulaire des anciennes cités-forteresses, elle ne renonce en rien à la prégnance du symbolisme de la cité désormais référée à la ville sainte et idéalisée en Jérusalem céleste. La ville apparaît comme totalité organique. Selon Panofsky, le monument gothique illustre et confirme la théologie scolastique. Le monument est un traité de pierre, le traité est un monument de mots. Bref, on a ce rapport microcosme-macrocosme avec ses correspondances graduelles en miroir qui caractérisent si spécifiquement les ontologies analogistes telles que les a mises en évidence Philippe Descola dans « Par-delà nature et culture ». La ville-monument, comme ordre et symbole, est donc bien, au même titre que le village Bororo, mais à une autre échelle, une expression de la pensée, une pensée en acte dans sa forme construite elle-même. On dira cette ville a disparu avec la révolution industrielle. Il n'en reste que des vestiges dans les anciens centres-villes. L'industrie a généré des banlieues sinistres et au mieux monotones, sans unité architecturale, sans dimension symbolique, ni même cohérence rationnelle. La ville ne semble plus exemplifier une cosmologie. Un monde est mort. Au mieux, on peut tenter de vivre sur ces ruines, s'efforcer de les aménager, à moins qu'il ne faille dire « un autre monde est né ». Mais la transition nous semble obscure et encore mal conduite. Pour saisir ce qui s'est passé, il ne suffit pas de constater l'effondrement du monument, il faut comprendre que cette déstructuration appartenait au possible du monument lui-même. Celui-ci n'existe que parce qu'il est bâti, ce qui implique tout un ensemble de réalités, et tout d'abord du travail de construction, travail réalisé par des populations parfois exploitées, souvent asservies, travail encadré par des géomètres, des ingénieurs, et donc supposant une organisation complexe à laquelle collabore toute une couche d'artisans urbains et tout un ensemble de personnages doués de compétences administratives. Bref, la ville comme telle, selon la formule heureuse de Lewis Mumford, qui parfois est très discutable, est une méga-machine, c'est-à-dire un dispositif social de production. Elle est déjà la première fabrique avant même que le concept ne soit formulé. En somme, le monument n'existe que par le travail et le savoir-faire technique qui le produit. Il est le résultat d'un dispositif social efficace, d'une énergie distribuée et coordonnée, d'une connaissance appliquée. En cela, la rationalité technique est d'emblée totalement présente dans le monument symbolique. Là, je vais peut-être un peu résumer. Ce n'est pas simplement par sa construction que la ville est machine, c'est que cette construction est tout le temps une reconstruction, un développement, et que c'est par tout le développement technique et économique, par la gestion très empirique des populations, par le problème de la voirie, du logement, de l'apport de nourriture, de l'eau, que la ville est une machine, est une méga-machine. On perçoit en quoi la ville suscite et offre une densité exceptionnelle de coordination technologique. Elle devient ainsi un incomparable incubateur de transformation et d'innovation. Et pour cela même, elle sera le lieu privilégié de la puissance industrielle des temps modernes. Ce qu'on appelle la révolution industrielle est incontestablement un phénomène urbain. La ville en fut le moteur. Ces faits sont connus, mais il faut les mettre en perspective, comme on peut le faire avec cette question. La dimension symbolique faisait-elle écran à cette réalité machinique ou technique, que l'on peut dire aussi fonctionnelle? Mais le symbole est-il séparable de la fonction? L'œuvre produite par le calcul, la mesure, la maîtrise des forces, la rationalité économique, n'est-elle pas comme telle réalité intelligente et en cela pensée réalisée autrement, tout autant qu'un dispositif symbolique? Si la réponse est oui, alors on peut dire que le schème naturaliste est déjà présent dans l'univers analogiste. On le voit mieux dans les dernières expressions de la ville-monument, celle de l'architecture dite rationaliste, inspirée de la physique depuis Galilée, et dont Pierre-Charles L'Enfant, l'architecte de Washington, est un des derniers représentants. Cette ville-là aussi a été démantelée avec la révolution industrielle. La naissance des banlieues miséreuses sont un échec non seulement de la pensée, c'est surtout un désastre social. Tout se passe comme si, à un épuisement du symbolisme, s'ajoutait un vide de rationalité. Pourtant, n'est-ce que cela? Comment peut-on passer, comme Lévi-Strauss, d'une aversion pour la trop belle géométrie de Washington, de la Washington classique, à une attirance pour le désordre créatif de New York ou l'audace de Sao Paulo? Et j'en viens au dernier point. Une autre lignée du devenir urbain doit être ici identifiée. Et avec elle, une autre possibilité se dessine. Elle n'est pas nouvelle. Je reviens à l'image de Sao Paulo. Ah, ça, nous avions le plan Damier. Elle n'est pas nouvelle, elle ne vient pas après comme ce qui reste. Elle était présente dans le fait urbain émergent. Il se trouve que désormais, elle nous devient plus lisible. Elle nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, non comme un mal nécessaire, mais comme une toute autre potentialité. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait du mal dans cette affaire. C'est la dimension du réseau. Avec elle, peut-être, pourra-t-on trouver le passage conceptuel que nous cherchons entre le village Bororo et les nébuleuses urbaines de notre temps. C'est paradoxal que cela soit. Dire que la ville, dès son émergence, est réseau, ce n'est pas projeter une vision récente sur des faits millénaires, c'est plutôt commencer à mieux voir ceci. En quoi la ville est réseau? Et au final, qu'est-ce que cette approche peut changer à notre compréhension des faits urbains contemporains? Entendons provisoirement par réseau tout ensemble de points ou de lieux interconnectés selon une raison ou d'agents interagissant selon un but. Donc, en quoi la ville est réseau? On peut le dire, là je vais aller vite, du point de vue topologique, la ville est un espace construit permettant de concentrer une population qui doit pouvoir y accéder, s'y déplacer, y vivre, communiquer. De ce point de vue, le principal organe du réseau est constitué par la distribution fonctionnelle des ensembles construits et le maillage des voies de circulation. Il est intéressant de remarquer que le système andamier apparaît indépendamment dans de nombreuses civilisations sans lien entre elles. Outre les rues, là nous avons une ville romaine en Algérie, et ça reproduit, enfin, ou le même modèle repris évidemment par les Européens en Amérique du Sud. Mais regardons Pékin la nuit. De ce point de vue, le principal organe... Oui, je dis... Non, il, non, il est, oui, pardon, excusez-moi. Outre les rues, ce maillage concerne aussi bien le réseau de voiries, l'adduction d'eau, le système de transport et plus récemment la distribution d'énergie et de systèmes de communication. Enfin, du point de vue économique, la ville est un réseau d'échanges multiples de biens, à l'intérieur de son propre espace, tout autant, car elle en dépend, un lieu de convergence des échanges régionaux. Max Weber y insiste constamment, toute ville est nécessairement un lieu de marché. Du point de vue social, la ville, alors même qu'elle l'a impliquée dans sa formation, hiérarchie et domination, tend tout autant à mélanger les populations, à effacer les statuts, à fonder les relations plus sur les professions que sur la parenté ou les appartenances ethniques. C'est ce que la rue symbolise. Ce germe égalitaire est ce qui apparaît dans les mouvements d'émancipation liés aux luttes municipales et à l'affirmation des droits bourgeois, comme on l'a vu au Moyen-Âge, avec la fameuse formule « l'air de la ville rend libre ». Enfin, du point de vue culturel et intellectuel, la ville suscite les échanges de savoirs, les groupements de savants, les lieux de débat, elle est un accélérateur de connaissances. On peut donc supposer une congruence entre ces types de relations et la forme de l'espace construit que développe la ville contemporaine, espace décentré, ou plutôt multicentré, défini par son ouverture et son extensibilité. Non, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur le réseau, notamment sur des hypothèses géométriques faites par certains géographes comme Léon Lalanne ou Walter Kestaler. Mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Je conclue. La ville qui nous était apparue comme le lieu par excellence du monument, qui comme machine s'est révélée le lieu également par excellence des dispositifs en réseau, tant au niveau spatial que social, culturel, technologique et cognitif. Cette ville-là est celle dans laquelle il semble que nous sommes appelés à vivre. Du même coup, la dispersion ou l'éclatement de la ville ancienne depuis le milieu du XIXe siècle, au lieu d'apparaître comme un échec du monument, comme sa fin malheureuse, peut nous apparaître, au contraire, comme le commencement d'un nouvel espace urbain dont le schéma est celui de la grappe, cluster city, et non plus du simple étalement urbain, sprawl town. On le constate de plus en plus, les villes se développent comme des ensembles de dispositifs réticulés, comme des archipels d'habitations, où, en certains nœuds, sont assurés les services administratifs et l'accès aux biens de consommation, mais où se pose cependant, en nouveaux termes, la question des formes architecturales, de l'espace public, de la rue, du voisinage, de la vie commune. On pourrait dire que se forme la ville, ou plutôt l'espace urbain, de l'âge électronique. Selon quel modèle ? Il est clair que pour certains théoriciens, que celui qui s'affirme, a sa référence dans le système neuronal. On touche ici à la question encore mal définie du cerveau collectif. Je n'oserais pas m'aventurer dans ce domaine. Je laisserai aux neurobiologistes, peut-être à Jean-Pierre Changeux, la possibilité de formuler une hypothèse. En tout cas, la fascination de Lévi-Strauss pour les villes du Nouveau Monde et leurs structures ouvertes a peut-être à voir avec le dispositif de transformation non limité des récits mythiques qu'il a mis en évidence dans le cas des deux Amériques, dans leur corpus de récits. Ce serait une bonne raison de supputer la possibilité d'un passage conceptuel chez lui entre le village Bororo et la ville réseau, car celle-ci est tout autant, mais selon d'autres modalités, une forme de pensée. Je vous remercie.